L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors Lionel, aujourd'hui tu poursuis dans cette chronique élémentaire, si je puis dire.
Voilà, exactement. En rédigeant en fait la chronique sur le vent en forêt, c'était l'avant-dernière chronique, la chronique avant la rencontre avec Mathieu, le luthier. Eh bien, en rédigeant cette chronique sur le vent en forêt, l'idée bien envolée s'est posée au sol et a germé en corolle, ou plutôt sous forme d'idée de traiter d'écologie forestière en mettant en corrélation la forêt avec les quatre éléments fondamentaux de notre planète Terre. Cela pour déceler leur rôle évident dans la croissance de la sylve. Nous avions parlé de l'air lors de la chronique 11 sur le vent en forêt, et il nous reste à aborder donc l'eau, le feu et la terre. Cette terre avec un T minuscule, cet élément terre qui nous supporte et nous apporte la vie chaque jour, je vous propose donc aujourd'hui de vous en parler en vous présentant son importance majeure en forêt et comment le forestier doit au mieux en prendre soin pour continuer à faire jaillir de belles et riches forêts pour les générations futures. Oui, mais pour mieux en prendre soin de cette terre, me direz-vous, encore faut-il connaître et reconnaître ce qu'est un sol, son origine, sa formation, son évolution, sa composition. Parlons donc aujourd'hui ensemble des sols forestiers.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous définir un peu plus précisément ce qu'est le sol et nous donner les particularités d'un sol forestier ?
Eh bien, je vais essayer d'être assez concis, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais écrit une grosse chronique aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être assez concis dans la définition sans vous faire non plus un cours de pédologie. Hein, pédologie de pédos, sol en grec, et logos, la science. Et qui est, soit dit en passant, une matière que j'enseigne à l'école pour apprendre aux futurs forestiers à mieux reconnaître les stations forestières qu'ils doivent décrire. Mais en fait, si je peux utiliser les mêmes mots que Francis Allais, qui au final image le sol forestier avec des mots plutôt justes, il le présente comme, je cite, « un espèce d'appareil digestif qui est capable de digérer tout ce qui tombe dessus, tout ce qui tombe de la canopée, pourri, est minéralisé et récupéré. C'est un circuit fermé, la forêt se nourrit elle-même. » En disant cela, il dit tout. Surtout quand il dit que la forêt se nourrit d'elle-même. Cela est très important à comprendre car la majorité des végétaux sont des êtres vivants autotrophes qui se nourrissent de leur propre matière morte qui tombe au sol, feuilles, bois sous forme de branches. Se dégrade de matière organique fraîche à de la matière minérale pour être à nouveau absorbée par les racines et les nourrir à nouveau.
Ah oui, donc en fait, il faut que la matière organique fraîche soit transformée en matière minérale pour être absorbée.
Eh oui, tout à fait, Maëline. Les végétaux ne peuvent absorber que de la matière minérale. Même les plantes carnivores qui captent la matière organique dans le ciel, sous la forme de mouches, doivent d'abord décomposer, on parle de fraction, donc fractionner cette matière organique pour absorber les principaux sels minéraux, comme le calcium, fer, potassium, magnésium, etc., nécessaires à la bonne croissance. Et puis ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les sols se forment non seulement grâce à la décomposition progressive, ou digestion, comme le dit Francis Allais, de tout ce qui évolue à sa surface, mais également grâce à la décomposition de la roche-mère, qui est située entre 0 mètre pour les affleurements, et plusieurs centaines de mètres de profondeur sous nos pieds. Au niveau de la formation d'un sol, on considère deux grands types de fractions, la fraction organique, qui s'effectue de la surface du sol vers les profondeurs, et la fraction minérale des différentes roches-mères magmatiques, comme le granit par exemple, sédimentaires, grès, quartz, ou métamorphiques, comme les schistes.
Donc la fraction organique, j'imagine qu'il s'agit de toutes les actions qui interviennent sur la décomposition progressive de la matière organique. C'est ce qui se passe dans l'humus, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'humus ?
Alors oui, tout à fait, tu en avais déjà parlé. L'humus, c'est notre lien avec la Terre, et il ne faut surtout pas le perdre. D'ailleurs, étymologiquement, le mot latin humus, comme le mot homo, homme, provient de la racine indo-européenne gerium.
Tu parles très bien indo-européen, dis donc.
Merci. Qui signifie terre. On est sur la même racine linguistique, nous sommes tous des terriens issus de la terre. Plus scientifiquement, en pédologie, quand on analyse un sol à l'aide d'une tarière ou d'une bêche en creusant une fosse, on établit un profil qui est découpé en plusieurs couches que l'on appelle horizon. L'humus fait partie du premier horizon de surface, l'horizon organique, qui est également constitué de l'horizon de litière neuve, donc les feuilles de l'année, vieille et de l'horizon de fragmentation. L'humus est appelé horizon organique humifère et c'est là qu'on remarque des filaments blancs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en grattant un peu au niveau du sol, sorte de chevelu racinaire provenant des champignons et appelé mycorhize. Et également la présence de petits animaux vivants dans le sol, qu'on appelle la pédofaune, et qui participe à la décomposition de la matière organique fraîche. Selon la présence des différents horizons ou couches dans un humus, on peut dire qu'ici il a été formé dans un sol aéré ou plutôt asphyxiant, en raison par exemple d'une saturation totale en eau ou d'une compaction répétée, acide ou basique, et cela joue sur la vitesse de décomposition et donc de sa formation, mais également sur la qualité trophique, c'est-à-dire nutritionnelle pour les végétaux qui poussent dessus. Cela amène à classer les sols forestiers par type d'humus. Alors, les types d'humus, bon, c'est mul, mort, modère, anmort, ce qui aide le forestier à connaître la sensibilité du sol et mieux adapter ses projets et activités à la surface.
Alors, je suis fascinée par tout ce nombre de petites bêtes et de petits champignons hein, qui vivent dans le sol. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Voilà, la pédofaune, donc, c'est des êtres vivants invisibles qui jouent un rôle primordial, pour tous les écosystèmes terrestres. Si nous n'en avions pas, la décomposition de la matière organique fraîche prendrait beaucoup plus de temps, les sols seraient beaucoup plus tassés et la vie serait impossible sur Terre en fait. C'est souvent la première chose à regarder quand on doit analyser un sol. La présence d'animaux dans le sol est signe que le sol est aéré et donc plus ou moins oxygéné. On va le voir, ces animaux vont avoir un rôle majeur dans la décomposition de la matière organique fraîche. On classifie les animaux du sol ainsi, donc par microfaune, les protozoaires par exemple, amibes, les acariens, tardigrades, rotifères. Ensuite, il y a la mésofaune, un peu plus grosse, un peu plus moyenne. Donc, des insectes en phase de larves, comme les collemboles, diptères, coléoptères, les vers de terre, les lymbricidés, mollusques, arachnides. Et puis enfin, la macrofaune, qui est plus grosse, donc les reptiles, micromammifères, rongeurs et insectivores. On estime quand même à 2,5 tonnes par hectare le poids total constitué par la pédofaune dans un sol neutre. Ce poids peut être revu largement à la baisse dans un sol pauvre et sablonneux ou au contraire trop lourd et compacté. Dans les zones forestières de feuillus, il est souvent plus important. La vie est foisonnante.
Donc il ne faut pas écraser les araignées même si on en a peur.
Voilà.
Et alors donc la terre provient de la consommation des feuilles et du bois par cette faune du sol justement.
Et voilà, et cette terre elle résulte de l'ensemble des excréments et exsudats produits par cette population du sol. Mais cela n'est pas sale, comme disent les anciens.
Mais alors là, ok, la matière organique est bien décomposée, mais maintenant, comment la matière organique devient à son tour de la matière minérale pour ensuite être absorbée par les arbres ?
Eh bien, la matière organique fraîche du sol subit une double transformation à travers deux processus parallèles. La minéralisation, qui transforme la matière organique en eau, sels minéraux, donc nitrates, phosphates, et l'humification, qui convertit les substances organiques n'ayant pas directement été détruites, au cours de la minéralisation primaire. En fait, l'humus stocke en effet momentanément la matière organique, qui est donc soustraite à la minéralisation dite primaire. Le ver de terre est au centre de cette affaire, et notamment grâce à son tube digestif qui est muni d'un organe spécial liant entre elles les micelles, donc c'est les agrégats de molécules de matière organique, aux micelles d'argile, notamment en turricules. Vous savez, les turricules, c'est des petits serpentins de terre qu'on peut trouver à l'entrée d'un trou de ver quand on regarde bien à la surface du sol. On appelle ça en fait le complexe argilo-humique. Et en plus, ça permet de lier l'humus et l'argile entre eux, ce qui forme les agrégats constitutifs et structures du sol. L'humus ne s'accumule pas indéfiniment dans le sol, car il subit à son tour une biodégradation plus lente appelée minéralisation secondaire. Donc ça, c'est la minéralisation secondaire, c'est par rapport aux conditions pédoclimatiques. Et in fine, cela transforme également les éléments en eau, sels minéraux et CO2. La matière organique se décompose plus ou moins rapidement selon le type d'humus. Dans un sol typique, près de 60% de la matière organique est minéralisée en un an.
Alors je suis bluffée, je n'imaginais pas qu'il pouvait se passer tout ça dans le sol. Hein. C'est une véritable usine finalement. Est-ce que le forestier doit vraiment connaître tout ça ?
Alors bah en fait, il doit avoir des notions quand même. Hein. Quand on est amené à gérer une forêt, ne serait-ce que pour produire du bois, en fonction majeure, hein, c'est quand même mieux de comprendre toutes les interactions au sein du vivant, que cela soit dans le domaine du visible, mais aussi dans le domaine de l'invisible. Il faut comprendre ce qu'on fait et prévoir les conséquences. Au niveau du sol, le forestier détermine donc le type d'humus, la texture des différents horizons, sable, limon, argile, et la structure du sol qui correspond à la liaison et à l'agrégation des éléments entre eux, le fameux complexe argilo-humique qui aère le sol en formant des grumeaux ou non. Dernier point important à prendre en compte, c'est la profondeur du sol, et notamment la profondeur prospectable racinaire qui est estimée lors du carottage réalisé à la tarière pédologique. Cette profondeur donne une indication sur la fertilité du sol. Plus il est profond, en gros, plus il est fertile. Les arbres pourront pousser plus haut. Ah mais, et cela permet également d'obtenir des paramètres sur l'ancrage des arbres. En effet, plus les racines pourront prospecter loin dans le sol, meilleur sera le contrepoids procuré par le volume du sol fixé par les racines.
Alors quand tu dis qu'il faut comprendre ce qu'on fait, je suis bien d'accord, mais parfois quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde ce qui se fait, comme les mises à nu soudaines ou encore les engins hein, qui tassent toute la surface de la parcelle, les dessouchages qui labourent et remuent ces horizons du sol, que j'imagine il ne faudrait pas mélanger, eh bien je me dis qu'il faudrait encore sensibiliser les propriétaires, non ?
Eh oui, tout à fait, Maëline. Et j'aurais d'ailleurs tendance à dire qu'avant d'être propriétaire des bois, un propriétaire forestier est propriétaire du sol, et que la vraie production de bois, il la doit au sol forestier, le sol le plus riche et socle de toute vie sur Terre. En prenant soin de son sol, en canalisant les engins sur des cloisonnements d'exploitation fixes, et ce même sur une coupe rase, en ne dessouchant plus, en ne faisant tout simplement plus de coupe à blanc, le forestier ne pâtira pas au bon maintien de son sol et donc de sa ressource, de son complexe édaphique, si précieux, et dont il faut 100 ans pour produire 1 cm de sol. En plus, il ne diminuera pas la fertilité de son sol, contrairement à ce que engendre la répétition des cycles courts de futaies régulières à 45 ans sur l'appauvrissement des sols forestiers. À titre d'information, je conseille la lecture du guide de bonne gestion Practisol, rédigé par la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire et l'ONF, qui permet vite de comprendre la fragilité d'un sol et qui met en lumière les bonnes pratiques à l'intention des personnels de terrain, les gestionnaires, exploitants ou ETF, conducteurs d'engins. Vous trouverez le lien internet sur la page du podcast de la chronique, car il faudrait largement plus de 10 minutes pour exposer les bonnes alternatives et éviter aussi de mettre en constante opposition les moyens techniques actuels de récolte des bois avec une limitation des impacts en forêt. En forêt, il faut connaître chaque option, de la plus lourde à la plus légère, et comprendre que le travail avec des engins n'est pas incompatible avec la préservation des écosystèmes forestiers. Il faut absolument prévoir et fixer leur passage pour dédier des zones d'accès qui ne seront plus qu'utilisées à ces fins et absolument protéger le reste du peuplement en excluant le passage de leurs roues qui, à titre d'information, tassent de manière invisible 80% d'un sol entre le premier et le troisième passage d'engins.
D'accord. Alors déjà que nos sols hein, sur les sommets et certains versants du plateau sont peu profonds, si en plus on les tasse, ça s'avère compliqué. Est-ce que tu peux nous proposer une petite conclusion, Lionel ?
Eh bien, écoute, oui, il ne faut pas se tracasser non plus. Les forestiers sont quand même des filles et des gars sensés. Je discute avec beaucoup de pros et ils sont sensibles à tout cela. Mais malheureusement, c'est toujours le mauvais travail qui fait en minorité qui est fait hein, et qui est le plus visible. Allez, pour conclure, maintenant que le sol est prêt, je vais semer quelques graines. Graines de pensée actuelles pour tous les jardiniers qui préparent en ce moment leur sol au jardin et dont je fais partie. Soyez des aborigènes. Soyons tous des aborigènes. Cette culture toujours vivante et qui remonte à plus de 40 000 ans, soit deux fois plus ancien que Lascaux, montre un respect sans faille pour le sol qu'ils s'interdisent de travailler, de labourer, d'ouvrir. Pensez simplement à ces quelques 400 000 petites bêtes par mètre carré de sol qui œuvrent pour vous à sa décomposition, son aération et son amendement. En ramenant un humus au jardin et à la limite en aidant son aération à la grelinette, cela peut suffire pour cultiver en respectant son sol. Je sais très bien d'où nous venons, ce que nous avons dû faire pour en arriver là, où nous en sommes aujourd'hui, mais je crois que le secret de la longévité, personnelle ou civilisationnelle, réside, comme le font nos amis les aborigènes, dans la croyance de ce qui nous entoure, du vivant et de l'émerveillement constant de là où peut se projeter notre regard qui voit, parfois aussi critique, inquiet, curieux aussi des choses, du matériel, de la matière, et sans non plus être trop terre à terre.
Et oui, Lionel, c'est le but même de la chronique L'onde du bois, d'éduquer au sol, d'éduquer voilà. À la forêt. Merci d'être
merci
avec
beaucoup.
Nous sur Radio Vassivière. On merci. Se quitte, comme d'habitude, en musique, avec justement un chant aborigène. Il s'appelle Lewis Burns.
Qui joue un air traditionnel de didgeridoo, qui est le chant de la création.
Ah super, en faisant le jardin, c'est top, ça va faire pousser les tomates plus vite, tu crois ?
En soufflant dans le didgeridoo et le kookaburra, c'est le souffle de vie qui a amené toute vie sur Terre.
Très bien, on écoute ça et tout de suite.
Les pommes de terre.
I'm going to play the song. This is the creation song, Gurialda or the Rainbow Serpent. Call it whatever you want to. Hope you like it. Gurialda. Creation song, Gurialda or the Rainbow Serpent, call it whatever you wanna. Hope you like it. Gurialda.
Yeah.